Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Très heureuse de vous retrouver en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir, Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
21 fois le mot travail en 27 minutes de discours, Emmanuel Macron essayerait-il de nous dire quelque chose?
Mohamed, quelle est votre story du jour?
La Pologne et la Biélorussie au cœur d'une crise sans précédent. Je vous raconte l'histoire de migrants, de réfugiés qui meurent aux frontières de l'Union européenne.
Mathieu, dans votre 5 sur 5
ce soir. De nouvelles accusations de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor. Certaines femmes parlent désormais à visage découvert. L'avocate de PPDA sera avec nous dans le 5 sur 5.
Patrick, votre édito du jour.
Palinodie, vous savez ce qu'est une palinodie, une volte-face, un retournement, un demi-tour. Eh bien, je vais vous raconter la plus belle palinodie d'Emmanuel Macron exécutée sous vos yeux hier soir.
Suspense. Et Pierre, dans votre œil ce soir?
Eh bien, je vous parlerai de la rentrée littéraire du gouvernement d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, puisque 9 ministres, pas moins, sortent des livres, et il y en a qui vendent pas très beaucoup.
Parmi ces ministres, Bruno Le Maire, qui publie Un éternel soleil chez Albin Michel, il sera dans un instant sur notre plateau. Patrick Timsit et Julie Andrieux sont nos invités du dîner, et ça sent bon, moi j'ai une faim de canard. Est-ce que ça tombe bien, Emmanuel? Oui, ça se dit, c'est une faim de canard,
oui,
Emmanuel
Le Blay.
À la pique couette, on dit qu'on a une faim de canard.
Voilà, mais ce soir, on va manger du canard qui sera fumé, grillé, avec une sauce apicius et des petites pousses d'épinards bio. Voilà. Et ça, le tout, vous pouvez retrouver ça à la pique couette, et non à la pique chouette.
C'est à Nîmes, voilà. Votre restaurant.
Dans les Halles de Nîmes, ouais.
Merci, chef. À tout à l'heure, vous faisiez quoi Eh oui, c'est comme ça qu'on fait, Pierre. Merci beaucoup, chef, à tout à l'heure. Un peu de sanitaire, mais surtout une bonne dose de campagne. Hier, pendant 27 minutes, plus de 20 millions de Français ont écouté Emmanuel Macron, un tiers président, deux tiers candidat, de quoi déchaîner les critiques de l'opposition.
J'ai tâché à la cavalcade de retranscrire tout ce que nous sommes en train de faire et ce qu'il convient de conduire pour les mois à venir. Depuis 4 ans, le travail paye mieux. Notre croissance dépasse les 6%. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Nous avons réussi l'impensable. Nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. Dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités, prendre des décisions claires.
J'ai entendu un candidat à la présidence de la République.
Il a fait une tentative de hold-up. À nouveau sur les idées de la droite.
Ce serait bien qu'il n'avance pas masqué.
Il a déroulé son programme pour les prochaines années. Je ne me souviens pas qu'il ait été élu pour 10 ans.
On a l'impression de participer à une espèce d'émission, une primaire dont il serait le seul candidat.
Bonsoir Bruno Le Maire.
Bonsoir.
Ministre de l'économie, des finances et de la relance et auteur d'un 4e livre depuis votre arrivée à Bercy, Un éternel soleil. Et si la France allait mieux qu'elle ne le croit? L'occasion de soutenir sans détour le président Macron, le mieux à même de conduire le prochain quinquennat qui démarrera dans un peu moins de 6 mois. Vous écartez d'emblée les critiques sur sa pratique solitaire, voire arrogante du pouvoir, sur le thème « si on critique sa personnalité, c'est qu'on manque d'arguments pour critiquer son action et son bilan ». Bon, les critiques sur sa pratique verticale du pouvoir ne vont pas se calmer après l'allocution d'hier. 27 minutes seul face aux Français, sans contradicteur. Pas de journaliste pour lui poser des questions. Une communication à sens unique. Ce qui fait dire au journaliste d'RMC, Nicolas Poincaré, que la dernière fois qu'Emmanuel Macron a eu une vague contradiction, c'était face aux youtubeurs McFly et Carlito. C'est dur. Il va durer longtemps, ce monologue? Ou le président va-t-il assumer d'être candidat et d'accepter le débat?
D'abord, il est chef de l'État. Donc, le rôle de chef de l'État, c'est de s'adresser aux Français comme chef de l'État français. Donc, moi, ça ne me choque pas. Ensuite, je pense que comme... président de la République, il est en contact permanent avec les Français. Il se déplace, il va sur les territoires, il discute, il est critiqué, il est parfois attaqué. Je pense que c'est bon, par moment, de fixer une ligne, d'indiquer aux Français où on veut aller, ce que l'on veut faire. C'est le rôle du chef de l'État. Après que les oppositions réagissent, c'est plutôt bon signe. Moi, je pense que quand on est attaqué, c'est toujours très bon signe.
Mais fixer une ligne, ça, c'est bien, mais accepter la contradiction et le débat, c'est autre chose. C'est
vraiment, et ça viendra.
Ça viendra, mais ça n'est pas souvent arrivé pendant ce quinquennat.
Ça viendra quand il sera candidat. C'est arrivé pendant le grand débat. C'est lui qui a lancé ce grand débat avec les Français, où il a accepté la contradiction. Ça viendra lorsqu'il sera candidat, en tout cas, moi, c'est ce que
élus,
je souhaite.
C'était des élus pendant le grand débat. C'était des élus, des Français.
Enfin, je pense que dans ce quinquennat, personne n'a été épargné par la critique, par la contestation. C'est la vie de la démocratie et c'est très bien comme ça. Le chef de l'État s'exprime, il fixe une ligne, puis à un moment donné, il descendra dans l'arène pour livrer le combat politique. Mais le moment venu.
Dans l'arène électorale, vous pensez qu'il doit encore entretenir ce vrai faux suspense longtemps ?
Ah, c'est à lui et à lui seul de le décider. Vous savez, il m'est arrivé plusieurs fois d'être candidat à des élections plus ou moins importantes. Et quelque chose qui est très intime, c'est le moment où on décide de dire aux électeurs, voilà, maintenant je vais y aller, je vais être candidat et je me soumets à votre choix et à vos suffrages. C'est une décision profondément intime.
On peut quand même comprendre l'agacement de ses adversaires, de l'opposition, mais aussi des Français qui réclament désespérément un dialogue avec leurs responsables politiques. Vous le rappelez dans votre livre, dès le début, vous évoquez le souvenir d'Annie, une jeune femme qui était venue il y a 14 ans vous soumettre dans votre permanence de députée à l'époque son dossier de surendettement. Annie est devenue gilet jaune en 2019, vous l'avez reconnue dans les pages locales de Paris-Normandie. Annie qui sentait bien que vous l'écoutiez sans l'entendre. Il y a dû avoir plusieurs millions d'Annie hier soir devant leur poste de télévision face à un président qui parle tout seul et pas un président qui écoute.
Il est une fois encore président de la République. Ce que je défends dans ce livre, c'est d'abord un message très simple qui est de dire à un moment où on accable les Français de reproches, de doutes, où dans le fond le déclinisme est à la mode. Explique aux Français, c'est foutu, il y a le grand remplacement, vous allez disparaître, vous n'avez aucune chance de réussir. Je crois exactement l'inverse. Je pense que la France a encore beaucoup de choses à dire, qu'elle réussit remarquablement au lendemain de cette crise économique, mais qu'on a toujours intérêt, c'est pour ça que je commence le livre par ce récit de la rencontre avec une de mes électrices, au moins une des habitantes de ma circonscription, à écouter les Français. Et pendant les 5 ans que j'ai vécu comme ministre de l'Économie et des Finances, où là encore on n'a pas été épargné par les crises et par les difficultés, à chaque fois que j'ai pu discuter, écouter, entendre les remarques d'un ouvrier d'Ascoval, cette aciérie dont on m'avait dit, tous les services m'avaient dit, il faut la fermer. Vous rencontrez les ouvriers. Ils vous disent, mais c'est faux, cette aciérie, elle a sa vie devant elle. Vous prenez la bonne décision quand vous écoutez les Français. Si j'avais écouté mes services plutôt que les ouvriers d'Ascoval, l'aciérie qui aujourd'hui fonctionne bien serait fermée. Et je pense que la seule corde de rappel dans la vie politique, c'est effectivement le dialogue avec les Français.
L'écoute. Hier, Emmanuel Macron a donc esquissé les chantiers à venir. Patrick, vous avez vu dans son intervention la plus grande incohérence de son quinquennat.
Oui, même si l'annonce était attendue, il s'agit de la relance du nucléaire, de la promesse de construction de nouvelles centrales. Parce que le quinquennat d'Emmanuel Macron, eh bien, il avait commencé comme ça.
Je n'ai pas été élu pour ma part sur un programme de sortie du nucléaire, mais sur une réduction à 50% de la part du nucléaire dans notre mix électrique. Et je tiendrai cet engagement. Concrètement, 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim.
Alors certes, ces 50%, ce n'est pas lui qui les a inventés, ils ont été mis dans la loi sous François Hollande, de même que l'arrêt de Fessenheim, que l'ancien président socialiste avait brandi pendant sa campagne de 2012 comme un gage donné aux écologistes, fermeture retardée puis officialisée 5 ans plus tard par Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, quelques semaines avant l'élection de 2017, mais rien n'obligeait Emmanuel Macron de tenir les promesses de François Hollande, promesses finalement réalisées à l'été 2020 quand Fessenheim a été débranché.
Mais Fessenheim était une centrale en fin de vie.
Pas du tout. Malgré son grand âge, 43 ans, l'autorité de sûreté nucléaire l'avait jugé en bon état de marche. Ses réacteurs auraient pu tourner jusqu'en 2041. Elle employait 2000 personnes, faisait rentrer 35 millions d'euros de recettes fiscales par an, alors que pour sa fermeture, l'État a dû verser à EDF 400 millions de compensations. Et surtout, Fessenheim produisait chaque année 12 TWh, c'est-à-dire 12 milliards de kWh d'électricité propre, 90% des besoins de l'Alsace, ou l'équivalent de plus de 3000 éoliennes, ou la totalité de la production d'énergie solaire en France. Résultat, même si les renouvelables ont en partie pris le relais, l'essentiel de la production a été compensée par des centrales à gaz, ou à charbon en Allemagne, soit quelques millions de tonnes de carbone en plus rejetées chaque année dans l'atmosphère, 6 à 10 millions d'après la filière nucléaire. En tout cas, le bilan écologique, social et financier est désastreux. Les élus alsaciens sont intarissables sur le sujet.
Bon, maintenant, Emmanuel Macron a changé d'avis, veut relancer le nucléaire, mais qui voudra d'une centrale à côté de chez lui?
Eh bien, ceux qui en ont déjà une, puisque le projet d'EDF, c'est de construire des réacteurs EPR sur des sites de centrales déjà en place. Les premiers de la liste devraient être Penly en Normandie, à côté de Dieppe, et Gravelines dans les Hauts-de-France, entre Dunkerque et Calais. Des extensions espérées, attendues par les élus locaux de tous bords dans ces deux régions. Gravelines, qui est la plus importante centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest, assure déjà 30% des recettes de la communauté urbaine de Dunkerque. Deux réacteurs EPR en plus, ce serait jusqu'à 7000 emplois supplémentaires durant la phase de construction. Alors pour l'instant, aucun détail sur le processus de décision, le nombre de réacteurs, le calendrier. C'est pas un petit chantier, hein. La Cour des comptes évalue la construction de 6 réacteurs EPR à 46 milliards d'euros. Mystère aussi sur les 12 autres réacteurs qui devaient fermer, mais quoi qu'il en soit, sur le nucléaire, ce quinquennat aura débuté par un engagement de fermeture pour s'achever par une annonce de réouverture. Comme vous dites dans votre livre, Bruno Le Maire, quand on voit la manière dont le nucléaire est vilipendé, vous dites ça pour le déplorer.
Oui, je le déplore. Je précise juste que l'engagement du président de la République peut être tenu, c'est-à-dire les 50% de nucléaire, 50% d'énergie renouvelable, ça n'est pas incompatible avec la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
Oui, si la consommation augmente beaucoup. Oui.
Si la consommation augmente, et surtout si on construit aussi beaucoup d'énergie renouvelable. Oui. Et moi, je vais vous dire, ce n'est pas fromage ou dessert, c'est les deux.
Oui.
Il faut à la fois accélérer le déploiement des énergies renouvelables, le solaire et l'éolien, en particulier l'éolien offshore, sur lequel je trouve que nous avons pris trop de retard. Et il faut également accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Pourquoi ?
Parce que ça prend du temps.
Et surtout, regardez dans vos usages quotidiens, qu'est-ce qui est frappant ? On utilise de plus en plus d'électricité. L'électricité pour la voiture, pour la domotique, pour les télécommunications, pour les transports. Donc les besoins d'électricité vont exploser au cours des prochaines années. Si on veut produire de l'électricité sans émettre de CO2, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a pas de professeurs Nimbus qui vont nous inventer un truc nouveau. C'est soit du nucléaire parce qu'il n'y a pas de CO2, soit des renouvelables. Nous nous proposons de faire les deux.
Fessenheim, c'était une bêtise, Bruno Le Maire.
Moi, je n'ai jamais été un partisan de la fermeture de Fessenheim, chacun le sait. Donc je le dis de manière très... Je ne vais pas dire que c'est une bêtise, c'est trop facile d'aller dire, voilà, ils ont eu tort, j'ai eu raison. Bon, je ne vais pas jouer à ce petit jeu-là. Je connais bien le maire de Fessenheim, je me suis rendu à Fessenheim, j'ai écouté les élus alsaciens, je connais leur position et vous l'avez parfaitement rappelé. On ne va pas pleurer sur l'air renversé. Ce qui compte pour moi, c'est qu'à l'avenir, la France produise de l'électricité décarbonée en s'appuyant sur une filière qui a été effectivement vilipendée et derrière elle, les salariés, les ouvriers, les chaudronniers, les soudeurs à qui on a dit « écoutez, on ne veut plus de vous, votre filière c'est le passé ». Le président de la République hier a dit « votre filière c'est l'avenir ». Et tant mieux, parce que ça nous donnera de l'indépendance. On ne va pas dépendre des décisions de M. Poutine sur le gaz. Ça nous donnera de l'électricité décarbonée et ça accélérera la transition écologique.
Il y a un mot qu'a martelé Emmanuel Macron hier soir également, c'est le mot travail. Le travail paie mieux. Pour que le travail permette de vivre dignement, c'est par le travail, par plus de travail, que nous pourrons préserver notre modèle social. Et enfin, aujourd'hui comme hier, le travail continue d'être notre boussole, le fil rouge de notre action. Le mot a été prononcé, parce que je vous épargne quand même de certains, 18 fois en 27 minutes, 21 fois si on ajoute le verbe travailler. Mais il y en a un qui a fait presque aussi bien, c'est Xavier Bertrand.
Je veux déjà relancer sur l'économie le travail et faire la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Et nous réussirons en matière économique par le travail et en faisant en sorte qu'il y ait moins de contraintes pour ceux qui donnent du travail, les entrepreneurs, que ceux qui travaillent gagnent vraiment leur vie et aussi, parce que c'est très important, qu'il y ait un changement radical, qu'on ne puisse plus en France refuser des offres d'emploi comme c'est le cas aujourd'hui.
Cette fois, le mot travail en 27 secondes. Mais surtout, les mêmes idées. Les chômeurs qui ne cherchent pas activement du travail verront leur allocation suspendue. Règle, d'ailleurs, qui existe déjà depuis 2008, mais qui a été rappelée hier soir par Emmanuel Macron. Avec cette idée que les chômeurs se contenteraient d'attendre leurs allocations, n'est-ce pas une idée de gouvernants déconnectés des réalités quotidiennes, pour reprendre les mots que vous employez dans votre livre ?
Non, je pense que c'est tout simplement la règle de droit. Quand vous ouvrez aujourd'hui le site internet de Pôle emploi, il y a des droits et puis il y a des devoirs. Et dans les devoirs, il y a la recherche active d'emploi. Mais je reviens sur la comparaison que vous avez faite parce qu'elle est intéressante. Ça pointe bien du doigt le drame des Républicains. Ce qu'ils proposent, nous le faisons ou nous l'avons fait. Quand ils disent qu'il faut valoriser le travail, ben, c'est ce que nous avons fait depuis 5 ans, en augmentant les salaires au niveau du SMIC, par la prime d'activité, par la défiscalisation des heures supplémentaires. Quand ils disent qu'il faut...
Aussi, hein.
Mais qui est, dans le fond, un des discours politiques possibles, il y en a d'autres. Mais ce discours qui consiste à dire qu'il faut que nos entreprises soient plus compétitives, qu'elles créent de l'emploi et que le travail soit bien rémunéré, parce que c'est ça qui permettra au pays de se redresser, c'est ce que nous faisons depuis 5 ans. Et les chiffres sont sans appel. 1 million d'emplois créés en 5 ans. 500 000 au cours de la dernière année. Et un salarié au niveau du SMIC, qui devrait toucher normalement un peu plus de 1270 euros, il va toucher quasiment 1500 euros, pas loin de 1500 euros, grâce à la prime d'activité, à la défiscalisation des heures supplémentaires, à la suppression d'un certain nombre de cotisations. Donc je ne vois pas aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de dire à mes amis des Républicains avec qui j'ai gardé des relations courtoises, mais dans le fond, soutenez-nous, nous le faisons. Aidez-nous à faire réussir la France.
Vous faites une politique de droite depuis 5 ans,
mais
autant que les Républicains vous soutiennent.
Je ne me reconnais plus dans ce clivage droite-gauche. On peut avoir une culture de droite ou une culture de gauche, c'est tout à fait respectable.
Mais cette idée que les chômeurs ne chercheraient pas activement du travail, c'est une idée de droite.
Mais l'idée n'est pas de pointer du doigt les chômeurs. C'est dur, c'est difficile d'être au chômage. C'est simplement de dire que lorsque on vous a accompagné, qu'on a fait l'effort de vous proposer des offres d'emploi qui soient des offres d'emploi décentes, avec des conditions de travail décentes, une rémunération décente, c'est-à-dire qui correspondent à votre qualification, à votre formation, vous pouvez refuser une fois, vous pouvez refuser deux fois, mais à la troisième fois, on vous dit, écoutez, si vous refusez à chaque fois, bah, désolé, on vous retire votre allocation chômage. C'est des droits et des devoirs. Et pour moi, ce n'est pas un discours de droite, ce n'est pas un discours de gauche, c'est un discours de justice. Et je crois que ce qu'attendent les Français aujourd'hui, c'est justement des responsables politiques qui sortent de ces clivages qui sont obsolètes, qui sortent de ces querelles inutiles et qui cherchent des solutions à la fois efficaces et justes.
Dans votre livre, vous faites des propositions pour améliorer la gouvernance de la France. Par exemple, réduire le nombre de parlementaires, mettre fin au principe du double examen des lois par l'Assemblée nationale et par le Sénat et réduire les compétences du Sénat en matière budgétaire. Ce qui a fait plaisir au leader des Républicains au Sénat, Bruno Retailleau, il est interrogé par Louis Amar et Michaël Robert.
C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Si c'est ça, je le dis à Bruno Le Maire, alors on encourage finalement le pouvoir de la rue, alors on encourage le pouvoir des réseaux sociaux qui se transforment en une vaste salle de cour d'assises. Moi je pense que la démocratie, c'est pas seulement le suffrage universel, c'est un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. C'est dommage quand même qu'on en arrive là et que des esprits aussi brillants, parce qu'il est intelligent, en arrivent aussi à cette conclusion d'affaiblir un peu plus le Parlement qui représente les Français sous la Ve République.
Et je croyais que Bruno Retailleau était gaulliste. Il faudrait que Bruno Retailleau se souvienne pour quelle raison le général de Gaulle a quitté le pouvoir. Et c'est précisément sur cette question du Sénat. Moi, je ne conteste pas le pouvoir des élus, je suis moi-même élu. Ça fait 15 ans que je suis élu à l'Assemblée nationale. Je dis juste que tout a changé.
Les députés ont perdu en crédibilité, les
parlementaires. Bien sûr, et je le regrette. Mais qu'est-ce qui a changé dans la vie française ? Tout. Les entreprises ont changé, le travail dans l'entreprise a changé. Vous avez votre bureau, on dit bah, « désolé, plus de bureau, vous allez travailler en open space. Il faut que vous soyez plus rapide, il faut que vous soyez plus efficace, il faut que vous répondiez plus rapidement aux clients. » Il y en a une seule catégorie à qui on n'a pas demandé ces changements, c'est les responsables politiques. Nous vivons avec les mêmes règles, le même rythme, le même fonctionnement depuis des décennies. Ça ne peut plus durer. Vous ne pouvez pas avoir une Assemblée nationale avec 577 députés qui n'ont pas les moyens de travailler correctement et de contrôler correctement l'exécution de la loi. On ne peut pas passer 3 mois à examiner le projet de loi de finances pour l'année suivante et le jour où on contrôle l'exécution de cette loi, on ne passe que 3 jours. Vous ne pouvez pas continuer à avoir des gouvernements qui soient des gouvernements pléthoriques alors que dans de grands États comme les États-Unis d'Amérique, le président gouverne avec 7-8 ministres. Donc tout ça doit être changé en profondeur, y compris quelque chose à quoi je suis très attaché, la géographie des lieux de pouvoir, le propose dans le livre.
Vous voulez que le président et le Premier ministre soient, cohabitent
mais
en quelque sorte.
Ils travaillent ensemble,
vous voyez,
ça fera de la réduction des émissions de carbone, et pas forcément en open space, mais vous pouvez réduire les émissions de carbone entre Matignon et l'Élysée en évitant ces trajets complètement inutiles du Premier ministre vers le président de la République.
Vous voulez aussi...
Plus sérieusement, je pense très profondément qu'il y a un esprit des lieux. Et que quand vous travaillez dans des bâtiments qui sont surchargés de dorures, qui sont trop chargés d'histoire, qui sont mal commodes, qui empêchent la discussion directe entre le ministre et ses collaborateurs. Je pense que ça n'est pas propice à des décisions sereines, simples et rapides.
Vous mettre où alors, à la défense ?
Vous dites ça parce que vous n'avez pas de dorure, vous.
Mais j'en ai eu.
Bah oui, mais
j'ai été
là,
ministre.
Vous en avez
pas. Justement, mais j'étais trois ans, d'accord, mais il se trouve que je suis maintenant un très vieux responsable politique. J'étais trois ans ministre de l'Agriculture.
Oui.
Et je travaillais dans un hôtel particulier, rue de Varennes, où le ministre avait un somptueux bureau avec un beau jardin.
Magnifique,
et puis vous avez tous les services autour qui sont dans des bâtiments modernes, mais qui sont séparés.
Vous aviez moins envie de travailler.
Mais vous imaginez un chef qui ne travaille pas à proximité de ses collaborateurs et de ses services. Est-ce que vous trouvez ça sain ? Moi, je ne trouve pas ça efficace. Et je pense que la République peut garder sa dignité tout en allant vers plus de simplicité.
Donc les ministères deviennent des musées et on met tous les ministres et leurs conseillers où ça ? Dans un quartier gouvernemental, quoi,
écoutons,
à la défense.
Il ne faut pas le décider d'en haut, il faut écouter les Français, demander aux Français ce qu'ils en pensent. Mais je crois qu'avoir des ministres qui travaillent en direct avec leurs services et leurs collaborateurs dans des lieux qui soient plus simples, plus modestes, mais toujours aussi dignes pour la République, vous verrez que la République y gagnera en efficacité et en respectabilité auprès des Français.
Vous voulez donc réduire le nombre de ministres, déplacer le Conseil des ministres du mercredi au lundi et surtout le ramener à une heure pour éviter que les ministres se dissipent. Ce que vous avouez faire très régulièrement. Vous préférez discuter avec Jean Castex ou avec Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer.
C'est mes deux voisins habituels.
Exactement.
C'est de très bons compagnons.
J'ai trouvé ça un petit peu infantile, cher Bruno Le Maire.
C'est pas infantile.
C'est au bout d'une heure, vous vous dissipez, mais vous n'arrivez pas à vous concentrer.
Mon livre n'aurait aucun intérêt s'il ne disait pas ce qu'est aujourd'hui la réalité du pouvoir, avec sa grandeur, son efficacité, ses résultats, puisque je salue le bilan que nous avons obtenu avec Emmanuel Macron, mais aussi tous ces défauts qui n'ont pas été corrigés depuis des décennies. Nous sommes la seule démocratie où un haut fonctionnaire peut être élu et le jour où il est battu, redevenir haut fonctionnaire.
Vous demandez à ce qu'il démissionne.
Mais je demande à ce qu'un haut fonctionnaire, le jour où il veut être élu, grand bien lui fasse, mais il ne garde pas au chaud sa place de haut fonctionnaire, c'est-à-dire sa place d'indépendance.
Ça vaut pour des candidats qui sont à la primaire des Républicains.
Bien sûr, mais ça vaut pour moi, pour tous les hauts fonctionnaires.
On va dire les choses, c'est le cas de,
oui, mais
de Valérie Pécresse.
Je ne vise personne en particulier, une fois encore, tous ces candidats sont estimables et respectables.
Michel Barnier.
Vous avez désormais des dysfonctionnements qui révoltent à juste titre le peuple français. Quand on demande à un salarié, un ouvrier qui travaille dans les fonderies, et qu'on lui dit, écoute, toi, ton métier, il va probablement disparaître parce qu'il y aura moins de fondeurs, moins de moteurs thermiques et plus de moteurs électriques. Donc il faut que tu te formes, il faut que tu te qualifies et il faut que tu changes de métier. Qu'est-ce que je voulais qu'il ait comme idée de nous si la personne qui a eu son diplôme de haut fonctionnaire à 20 ou 21 ans, qui se lance en politique à 28, il garde bien au chaud, lui, son poste de haut fonctionnaire.
Emmanuel Macron, il
ne
peut
sous-estimez
pas
la colère, l'attente des Français qui se disent, mais dans le fond, nous, on prend des risques. Eux, ils n'en prennent pas. Mais je pense que le peuple français a raison. Quant à Emmanuel Macron, il a démissionné de la fonction publique, comme j'ai démissionné de la fonction publique, parce que je considérais qu'il y avait une incompatibilité de nature entre l'indépendance du haut fonctionnaire et l'engagement du politique.
Et dans votre livre, vous exhortez aussi les Français, Bruno Le Maire, à se montrer moins pessimistes. Vous écrivez « Sortons de l'apitoiement sur nous-mêmes, sortons des comparaisons incessantes avec nos voisins, sortons par exemple de ce mime des États-Unis qui nous fait grimacer. » Et hier soir, Emmanuel Macron a lui aussi répété que la France, il faut y croire.
N'ayons pas peur. Croyons en nous. Croyons en la France. En une France qui reste elle-même, forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit. Forte de son esprit de résistance à la dilution dans un monde qui va, à la soumission, aux dogmes, aux obscurantismes. Croyons en nous. Nous le méritons.
On ne croit pas assez en nous. En nous-mêmes.
Je pense qu'on ne croit pas assez en nous. Et je pense que tous les responsables politiques qui n'ont que le mot « déclin » à la bouche du matin au soir, ou « grand remplacement », ou « disparition de la culture française », ont une responsabilité particulière à cet égard. Moi, quand je pars à l'étranger, j'étais au G20 il y a quelques jours, et que je rencontre des dirigeants étrangers, des ministres des Finances étrangers, qu'est-ce qu'ils disent ? Vos résultats sont exceptionnels. Vous avez affronté la crise la plus grave depuis 1929, vous n'avez pas perdu d'emploi, pas eu de faillite, et vous ressortez avec une croissance qui va quasiment toucher les 7%. Vous avez un niveau de chômage qui est plus faible au lendemain de la crise qu'avant la crise.
Vous investissez, vous réussissez dans le domaine des biotechnologies, de la santé, du nucléaire. Vous avez une culture qui rayonne partout à travers la planète. Et pourtant, vous êtes totalement déprimé. Donc c'est à nous, responsables politiques, d'apporter une réponse. Et une des réponses que j'apporte dans ce livre, c'est de retrouver un projet collectif. Je pense qu'une des choses qui mine aussi la société française, c'est un individualisme qui fait que quand on est réduit uniquement à son petit moi, on est forcément malheureux. Quand on s'engage pour quelque chose de plus grand, en particulier la France, en particulier la construction de la nation française ou la construction européenne, ben je pense qu'on y trouve du bonheur et de la liberté.
Vous vous souvenez du slogan d'Edouard Balladur en 1995 ? Croire en la France.
On parle de la France.
Croire en la France.
Croire en la France, mais croire surtout dans les Français.
Ouais,
croire surtout
le
dans les Français. La France, elle nous dépasse tous et c'est pourquoi nous nous engageons. Mais ce que j'ai vécu depuis 5 ans, quand j'ai été confronté en particulier à cette crise économique la plus brutale depuis 1929, toute l'économie à l'arrêt, et où j'ai eu qu'une seule peur, c'est qu'il n'y ait plus de quoi nourrir les Français dans les grands magasins. J'ai vu des transporteurs qui continuent à prendre leurs camions, même si c'était risqué du point de vue de l'épidémie. J'ai vu des agriculteurs qui ont continué à produire. J'ai vu des grands distributeurs qui ont mobilisé toutes leurs troupes. J'ai vu des agents de caisse qui sont allés aux caisses et qui ont passé des produits en caisse à un moment où on ne savait pas du tout si l'épidémie pouvait véritablement être contractée aussi rapidement, avoir des conséquences graves. Ils étaient au front et ils étaient là. Donc j'ai vraiment envie de dire aux Français, soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous avez réalisé et de ce que vous êtes en train de construire. Et quand j'entends, je le redis parce que ça me blesse d'entendre tous ces discours qui montent les Français les uns contre les autres, ce discours du grand remplacement, comme si le peuple français était une potiche posée sur un linteau de cheminée qu'on pourrait remplacer comme ça du jour au lendemain.
Mais ce discours-là, il plaît à 30% des Français. Si on additionne les intentions de vote pour Éric Zemmour ou Marine Le Pen,
eh bien, il doit être,
ça
bien
peut
sûr
convaincre 30%
si,
des Français.
Si tout allait bien.
Voire 35.
Si tout allait bien en France, je pense que je n'aurais pas écrit ce livre. Ce livre, c'est aussi une façon de prendre position à la campagne. De dire, voilà, vous, Français, ce que vous êtes, un grand peuple. Voilà ce à quoi vous appartenez, une grande nation. Et tout ce qu'on vous serine matin, midi et soir, le grand remplacement, le peuple qui va disparaître, la nation qui s'effondre, c'est la névrose de personnes qui ne connaissent pas la France et qui n'aiment pas la France. Parce que la réalité de la France, c'est un peuple debout, capable de résister aux crises, qui a une culture exceptionnelle et qui demande juste de développer, laisser vivre cette culture. C'est à nous de défendre cela et c'est le moment pour chaque responsable politique digne et responsable de prendre la parole et de la prendre haut et fort. Demain, sinon, il sera trop tard.
Éric Zemmour n'aime pas la France, il est ni digne ni responsable.
Non, moi, je vois des gens qui vous expliquent qu'Éric Zemmour est quelqu'un de charmant, intelligent et cultivé. Pour moi, il n'a aucune de ces trois qualités. Aucune. Quand on confond Pétain et De Gaulle, on n'a pas de culture. On a le goût du mensonge. Quand on le met sur le même plan Vichy et Londres, on n'est pas intelligent, on est manipulateur. Quand on monte les Français les uns contre les autres, quand on divise, quand on demande à votre chroniqueur, son prénom c'est bien Mohamed, de changer son prénom, on n'est pas charmant,
Mohamed Bouafsi,
on est détestable. Donc je crois qu'à un moment donné, il faut savoir dire les choses comme on les pense. Et si on n'a pas le cœur et le courage de dire les choses comme je viens de les dire, il faut faire un autre métier que la politique.
Justement, on accueille Mohamed Bouafsi, c'est l'heure de sa story.
Bonsoir, bonsoir, monsieur le ministre.
Mohamed, c'est une crise migratoire inédite qui se joue depuis un mois à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Une crise migratoire fabriquée de toutes pièces par le régime dictatorial d'Alexandre Loukachenko.
Plusieurs milliers de femmes et d'hommes qui vivent dans la neige, pour la plupart en manque d'eau et de nourriture. Des personnes qui tentent de se réchauffer autour de feux par des températures négatives. Des migrants en détresse physique et psychologique. Depuis le début de la crise entre la Pologne et la Biélorussie, on dénombre plus d'une dizaine de morts à la frontière. La plupart d'origine kurde qui n'ont qu'un seul objectif, aller en Europe. Et qui sont au cœur d'un conflit international. À la frontière, la situation est dramatique. Depuis plusieurs semaines, l'Union européenne est en crise avec la Biélorussie. Le président biélorusse, Vladimir Loukachenko, orchestre cette crise en délivrant des visas à des migrants. Il se venge des sanctions européennes prises à l'encontre de son pays depuis sa répression de l'opposition après la présidentielle de 2020. Grâce à plus de 50 vols par semaine, Loukachenko fait venir des femmes et des hommes du Liban, d'Afghanistan, de Jordanie et de Syrie. Ils arrivent à Minsk grâce à Belavia, la compagnie aérienne biélorusse. Loukachenko les fait ensuite entrer de manière clandestine dans l'Union européenne. Des personnes sans espoir qui veulent uniquement aller en Allemagne ou au Royaume-Uni. Le Premier ministre polonais a d'ailleurs diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux des migrants qui découvrent des barbelés à la frontière. Ils veulent faire demi-tour. Les soldats biélorusses leur tirent dessus. La vidéo que vous allez voir et filmé côté polonais. La Pologne critique la Biélorussie, mais accuse aussi la Russie. Pour les Polonais, le président russe, Vladimir Poutine, est le commanditaire de la vague des migrants.
La néo-impériale politique russe postępuje. Widzimy to bardzo dokładnie. Obserwujemy te kroki. Ale to właśnie ten ostatni atak Łukaszenki, który jest wykonawcą, ale ma swojego mocodawcę. I ten mocodawca jest w Moskwie. Tym mocodawcą jest prezydent Putin. Pokazuje determinację realizacji tego scenariusza odbudowy Imperium Rosyjskiego. Scenariusza, któremu my, wszyscy Polacy, musimy się z całą mocą przeciwstawić.
Pour l'heure, c'est autour du poste frontière de Kuznica que se concentre la majorité des tensions. Face à l'afflux des migrants, le gouvernement polonais, qui refuse de les accueillir, a déployé plus de 10 000 soldats armés et a commencé à construire un mur sur 184 kilomètres de frontière. Cette crise est un nouveau test de solidarité pour l'Europe. Bruno Le Maire, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a été interrogé sur le sujet à la sortie du Conseil des ministres aujourd'hui.
Ce qui se passe et ce que fait le régime biélorusse, ça s'appelle tout simplement du trafic d'êtres humains.
Gabriel Attal parle de trafic d'êtres humains. Monsieur le ministre, pensez-vous que des sanctions supplémentaires doivent être prises à l'égard de la Biélorussie au vu de cette crise dramatique ?
Ma réponse est clairement oui. Je pense qu'il faut bien mesurer ce qui se passe. C'est la réponse du président biélorusse, Monsieur Loukachenko, aux sanctions que l'Union européenne a infligées à la Biélorussie parce que la Biélorussie ne respecte aucune des règles démocratiques en usage. Donc M. Loukachenko prend les migrants comme monnaie d'échange, comme otage de sa riposte à l'Union européenne. C'est un vrai test, effectivement, vous le dites très bien, de la fermeté de l'Union européenne. La fermeté en deux sens. Fermeté vis-à-vis de M. Loukachenko pour dire « Vous jouez avec nous, nous durcissons les sanctions ». Et ne pensez pas que vous avez la moindre chance de faire plier l'Union européenne sur sa politique migratoire. Plus vous jouerez à cela, plus nous durcirons les sanctions. C'est un premier test. Le deuxième, c'est un test de solidarité vis-à-vis de la Pologne. Nos frontières doivent être contrôlées. C'est nous qui choisissons qui rentre dans l'Union européenne et qui n'y rentre pas. Et nous ne le choisissons pas sous pression de M. Loukachenko ou sous pression de M. Poutine, parce que sinon demain ce sera sous pression aussi de M. Erdogan en Turquie. Nous le choisissons librement et nous devons donc soutenir le gouvernement polonais. C'est pour moi les deux lignes de force. Répondre à M. Loukachenko par le durcissement des sanctions et défendre la Pologne, parce que la défense de ses frontières, c'est la défense de nos frontières.
Et à Vladimir Poutine, que vous n'avez pas cité, mais personne ne...
Mais Vladimir
pas, vous
Poutine
l'avez cité,
entend
si, mais pas
très bien
dans
les messages
sanctions
indirects qui peuvent être adressés. Et les tests de fermeté vont être des tests qui vont se déployer sur tous les sujets, le sujet des migrants, le sujet énergétique avec le gaz, sur beaucoup d'autres sujets dans les années qui viennent. La question pour l'Union européenne, c'est est-elle capable, sur les sujets migratoires, sur les sujets énergétiques, sur les attaques contre ces technologies, sur les cyberattaques, de faire preuve de fermeté, oui ou non ? L'Europe doit apprendre, entre le continent chinois et le continent américain, la fermeté. Fermeté sur le contrôle de ses frontières, fermeté sur son approvisionnement énergétique, fermeté sur la maîtrise de ses technologies. C'est, dans les années qui viennent, le grand test politique qui va être adressé au continent européen. La moindre faiblesse, je dis bien la moindre faiblesse, sera exploitée par nos adversaires.
Et ces hommes, ces femmes, ces enfants, leur portent secours ?
Ça, c'est à Frontex, à l'organisation migratoire européenne, de voir ce qui peut être fait, ce qui peut être apporté comme secours. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans la logique de chantage de quelque puissance étrangère que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on teste comme cela ? Mais pourquoi est-ce que l'on teste comme cela l'Union européenne ? Parce que nous sommes un continent démocratique et que tous ces États puissants à nos frontières sont des régimes autoritaires et veulent montrer que les démocraties sont faibles. À nous de montrer que les démocraties sont aussi fortes et capables de tenir des positions fermes. Ils le font parce que nous sommes un continent riche. À nous de montrer que nous sommes capables de défendre notre prospérité. Et tout cela dans le respect de nos valeurs et dans le respect notamment du respect des droits de l'homme.
Vous restez avec nous, Bruno Le Maire. On continue à évoquer l'actualité. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu. La lanceuse d'alerte qui fait trembler Facebook est en France.
Frances Haugen, l'ancienne employée de Facebook, c'est elle qui a fait fuiter des documents démontrant la dangerosité d'Instagram pour les jeunes filles, notamment les Facebook Files. C'est elle aussi qui portait ses critiques contre la multinationale le mois dernier dans les médias américains et devant le Congrès à Washington, critique des algorithmes de Facebook qui auraient facilité l'assaut du Capitole. Frances Haugen était donc aujourd'hui à l'Assemblée et aux députés. Elle a redit à quel point elle estime que Facebook nuit au fonctionnement des États.
Je suis ici parce que je pense que les produits de Facebook nuisent aux enfants, attisent les divisions et affaiblissent les démocraties, et bien plus encore. Or, l'entreprise sait comment rendre ces activités plus sûres, mais elles ne le feront pas parce qu'elles mettent toujours les profits colossaux avant la sécurité des usagers. Il faut que de nouvelles lois soient mises en place et je suis reconnaissante au gouvernement français de prendre ce sujet à corps.
Pour ce qui nous concerne plus directement, Frances Haugen alerte sur un point précis. Ce sont des algorithmes qui gèrent la modération des réseaux sociaux de Facebook et ces algorithmes, vous allez sourire, ils ne sont pas forcément programmés pour la langue française.
Facebook a beaucoup investi dans les contenus en anglais, plus de 80%. Et les contrôles des contenus en anglais. Or, il y a beaucoup de langues qu'on ne comprend pas. Beaucoup de langues, y compris le français, ont eu des problèmes de sécurité importants. Par exemple, la désinformation sur la COVID. Vous savez, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne saisit pas toutes ces nuances. La documentation de Facebook a montré que pour ce qui est des discours haineux, 3 à 4% seulement sont enlevés.
Aux États-Unis, c'est un vrai débat de fond qui se pose d'abord celui des méthodes de la multinationale.
Facebook and big tech are facing a big tobacco moment. A moment of reckoning. The parallel is striking. When we learned of those files that showed not only that big tobacco knew that its product caused cancer, but that they had done the research, they concealed the files, and now we knew, and the world knew, and big tech now faces that big tobacco jaw-dropping moment of truth.
Des méthodes de mensonge et de manipulation similaires à celles employées par l'industrie du tabac dans les années 70. Là-bas, on parle désormais même dans les débats de démanteler le groupe, mais du tabac au cancer. Vous voyez la députée démocrate Alexandria Ocasio-Cortez qui traite clairement Facebook de cancer pour la démocratie. Bruno Le Maire, comment est-ce qu'on se défend de Facebook maintenant qu'on sait qu'à plusieurs reprises l'opinion a été manipulée, que ces réseaux sont parfois même dangereux pour les jeunes filles? Quelles mesures, quelles sanctions?
Je pense que ce n'est pas uniquement Facebook le combat, c'est l'ensemble des géants du numérique. C'est Facebook, c'est Apple, c'est Amazon, c'est tous ces géants du numérique qui ont des niveaux de capitalisation boursière, aujourd'hui 1 000 milliards de dollars à peu près, supérieurs au PNB de 90% des États de la planète. Donc le rapport de force leur est favorable. Et c'est un des éléments importants de réflexion dans mon livre. Comment est-ce que l'on fait pour ramener l'ensemble de ces géants du numérique à des comportements qui soient plus respectueux de nos démocraties et de nos États? Il ne s'agit pas de discours, il faut marquer des points. Et il est possible de marquer des points. Quand Facebook a voulu créer sa propre monnaie, Libra, qui était assise sur un panier de monnaie dont l'euro et le dollar. Ce qui veut dire que les clients de Facebook auraient influencé le cours de l'euro, de notre monnaie nationale et de notre monnaie européenne. Avec mon homologue allemand, Olaf Scholz, nous avons dit non, nous refusons. On a fait une conférence de presse, on a appelé les Suisses chez lesquels Libra devait être implanté pour dire nous refusons Libra. Quand Google se met en situation monopolistique, nous faisons agir l'autorité de la concurrence, un demi-milliard d'euros d'amende sur Google. Quand ces gens du numérique ne payent pas leurs impôts, 4 ans de travail pour mettre sur pied une taxation des géants du numérique. Donc il faut poursuivre dans ce sens-là. Les prochaines étapes, c'est justement sur le contrôle des contenus, c'est les directives européennes, et sur la situation monopolistique de ces entreprises, mais qui est totalement inacceptable.
On sait déjà, il n'y a pas de sanction possible. On nous dit désormais qu'Instagram peut nuire.
La sanction, c'est la directive européenne que nous voulons, avec le président de la République, faire adopter sous présidence française de l'Union européenne, qui va permettre un meilleur contrôle des contenus sur Facebook, sur l'ensemble des plateformes. Ils sont jugés partis. C'est absolument scandaleux, mais de quel droit Facebook ou Twitter, moi je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, mais il décide de référencer ou de déréférencer Donald Trump. Un jour on dira, mais M. Cohen a tenu des propos qui sont complètement inacceptables, donc on le déréférence de Facebook. De quel droit peuvent-ils à la fois diffuser le contenu et être juge de ce contenu? C'est à nous, les États, les démocraties, le peuple souverain, de décider ce qui peut ou non figurer sur les plateformes.
Il y a 2 textes élaborés sous l'autorité de Thierry Breton. Vous espérez les faire adopter au premier trimestre par l'Union européenne ?
Nous espérons, avec le président de la République, faire adopter les 2 textes qui portent sur les contenus et sur les plateformes, DSA et DMA, sous présidence française de l'Union européenne. C'est un énorme défi. Il y a beaucoup de désaccords entre États européens, avec le Parlement européen, sur jusqu'où allons-nous sur ces 10 directives. Mais ce sera un des combats majeur de la présidence française de l'Union européenne. Parce que derrière, le vrai combat, c'est de savoir si les géants du digital, c'est-à-dire des intérêts privés, remplacent les démocraties, c'est-à-dire des intérêts publics.
Patrick Poivre d'Arvor face à de nouvelles accusations.
Viol, agression et harcèlement sexuel. C'était à la une de Libération hier matin. Des femmes qui témoignent à visage découvert et qui accusent un système PPDA à TF1 lorsqu'il présentait le journal le plus regardé d'Europe. Stéphanie Kayat rêve de travailler pour une émission littéraire. Elle a 24 ans alors. Elle est reçue après le 20h dans le bureau de PPDA. Une assistante l'y accompagne. Lui ferme la porte et rapidement, je cite, « il me retourne brusquement, m'oblige à me baisser et enfonce son sexe dans ma bouche ». Dans son témoignage, elle souligne qu'elle était anorexique, qu'il l'a aidée à se soigner et qu'il l'aurait violée à nouveau ensuite. « Tu as un corps de femme maintenant, avec des fesses et des seins. J'ai le sentiment qu'il me fait payer le prix de son aide, qu'il réclame son dû. » PPDA aurait laissé des messages nocturnes à Cécile Timoreau. « Est-ce que vous dormez nu ?» Quelques années plus tard, elle accepte de dîner avec lui le jour de l'anniversaire du suicide de sa fille. Quand elle le rejoint dans son bureau, son assistante aurait dit « Oh non, Cécile, pas toi ». Il lui aurait sauté dessus, elle aurait réussi à fuir. Aude Darley publiait un livre lorsqu'elle l'a rencontré. Même coup de fil nocturne insistant, même invitation à assister aux 20h et une liste de prénoms de femmes sur son bureau, associée à chaque jour de la semaine. Sans le voir venir, j'ai senti sa langue dans ma bouche et sa main dans mon soutien-gorge. Je l'ai repoussé. Il a ajouté « Faites attention à vous ». La journaliste Hélène Devinck travaille avec lui. Elle est chez lui, invitée à dîner. Sitôt le plat terminé, il se jette sur moi. Il m'impose un rapport sexuel extrêmement bref. Chloé, journaliste aussi, appelée dans son bureau en pleine journée. En une poignée de secondes, sa langue était dans ma bouche. Une des mains dans mon soutien-gorge, les doigts de l'autre dans mon sexe. La porte était ouverte. Dans l'enquête de Libération, d'autres témoignent. Plusieurs ont été choqués par les propos de PPDA sur le plateau de Quotidien. Lorsque des enquêtes du Monde l'hiver dernier, du Parisien aussi, relayaient des témoignages anonymes après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel. Sur C'est à vous, nous avions alors reçu le journaliste du Parisien, Benoît d'Aragon.
J'ai enquêté auprès de journalistes de TF1, de personnes qui sont passées par TF1 et qui me décrivent exactement ce qu'elle décrit dans le livre, à savoir qu'il invitait régulièrement des jeunes femmes dans son bureau. Elles assistaient aux 20h de TF1. Après, elles montaient dans son bureau où il avait régulièrement des relations sexuelles. C'est quelque chose qui était assez industrialisé. Beaucoup de femmes m'ont dit « ça se sait ». Dans l'endroit où je travaille, j'en ai déjà parlé à mes collègues, mais je ne veux pas voir mon nom dans un journal et qu'on me googlise dans 10 ans, quand on me googlise parce que je passe chez vous, ouais. Et dire, ah ben dis donc, elle a été victime de PPDA, c'est très difficile à vivre.
Bonsoir, maître Jacqueline Lafont. Bonsoir. Vous êtes le conseil de Patrick Poivre d'Arvor. Après les accusations de l'écrivaine Florence Porcel l'hiver dernier, d'autres femmes avaient témoigné. Pour sa défense, Patrick Poivre d'Arvor soulignait l'anonymat de ces femmes, regrettant qu'aucune n'ait le courage de témoigner à visage découvert. Aujourd'hui, ces femmes témoigne sans être anonyme. Est-ce que ça change la donne ?
Alors écoutez, ça ne change pas la donne parce que contrairement à ce qui est annoncé d'ailleurs par vous-même et ce que le journal Libération laisse croire faussement dans sa présentation, il n'y a aucune nouvelle accusation. Nous, ces femmes nous sont connues, elles ont été entendues, Elles sont expliquées toutes devant les services de police dans un cadre judiciaire approprié, qui est celui prévu par la loi, avec des règles de procédure pénale qui sont des règles absolument fondamentales. Et à la suite d'une enquête qui a été menée sous l'autorité du parquet de Nanterre, eh bien ce même parquet de Nanterre a rendu une décision motivée de classement sans suite.
Ce qui ne veut pas dire ce qui s'est rien passé.
Alors, ça ne veut pas dire...
Le procureur s'en explique dans Libération.
Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais ça veut encore moins dire qu'il s'est passé quelque chose. Parce que, si vous voulez, il y a quand même un travers absolument inquiétant et dangereux en ce moment. C'est qu'on est en train de renverser totalement la charge de la preuve. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même que les téléspectateurs se rendent compte de cela. Vous, journalistes aussi, nous, citoyens, tous autant que nous sommes, c'est que la présomption d'innocence, c'est un principe absolument fondamental. Mais là, on essaie de dire qu'un homme qui finalement... pour des raisons qui sont totalement indépendantes de sa volonté. Ça n'est pas lui qui choisit les règles de la prescription. Ça n'est pas lui qui choisit que des faits dénoncés soient prescrits. Il est totalement étranger à cela. Eh bien, cet homme-là, il serait condamné à être coupable à vie sans avoir été jugé.
Maître, ce qui est le plus frappant, ce sont les ressemblances entre tous ces témoignages. Ces assistantes surnommant les femmes qui passaient dans son bureau comme le McDo de Patrick. On parle d'agression présumée dans son bureau, en assistant au 20h, après le 20h. Que dire de la similitude de tous ces témoignages qu'on lit?
Alors écoutez, ce que je voudrais dire, c'est que cette affaire, elle démarre sur les accusations d'une femme dont les faits ne sont pas prescrits.
Florence Porcel.
Florence Porcel, dont les mensonges ont été démontrés dans le cadre d'une enquête tout à fait fouillée, approfondie. Ça, c'est la première chose. Et à la suite de ça, effectivement, il y a eu d'autres témoignages, toutes n'ont pas déposé plainte, qui ont été délivrés devant les enquêteurs de police et qui ont été recueillis. Toutes ces personnes ont été largement entendues et je m'en réjouis. Je ne peux que me réjouir évidemment que des femmes qui se plaignent de comportements qui sont considérés comme des agressions sexuelles soient entendues par les services de police. Ça me paraît être le minimum. Mais ça a été fait. Et il y a eu des vérifications qui ont été faites. Et par exemple, ces histoires de McDo, elles ont été contestées par la personne à laquelle on les prête, c'est-à-dire l'assistante de M. Poivre d'Arvor, qui a été entendue, Madame Hélène Mille, qui a témoigné et qui a dit « mais c'est faux, je n'ai jamais dit cela, jamais ». Donc, si vous voulez, les choses sont plus complexes que cela. Il y a une enquête, et cette enquête-là, encore une fois, elle a donné lieu à une conclusion qui, certes, dans une motivation un petit peu en retrait par rapport à celle qui a été écrite et qui a été rendue publique, le procureur de la République de Nanterre, après une enquête approfondie, a considéré que où les faits étaient prescrits, où il n'était pas établi, où il ne correspondait à aucune infraction, il y a eu vraiment, je le dirais, de nombreux témoins qui ont été entendus et qui viennent contester les accusations qui sont portées.
Mais votre raisonnement sur le plan pénal est tout à fait juste, encore qu'il pourrait y avoir une nouvelle phase judiciaire si, comme il est écrit, Florence Porcel décide de porter plainte devant le procureur de la République avec désignation d'un juge d'instruction et donc une nouvelle phase judiciaire pourrait s'ouvrir. Mais ce qui interpelle évidemment dans le travail de Libération, c'est le dossier, c'est l'exposé des faits. Et là, on n'est pas simplement sur le plan pénal, on est sur la révélation d'un système, d'un comportement qui a pu perdurer pendant des années, qui s'est exercé sans doute auprès d'autres victimes et bien au-delà de celles qui ont témoigné à visage découvert dans les colonnes du journal.
Alors là, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Il y a d'autres victimes, je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien.
D'autres plaignantes.
Et on ne dit pas victimes d'abord.
D'autres
merci,
plaignantes.
Merci. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des personnes qui sont des plaignantes et qui ne sont même pas toutes des plaignantes. Certaines ont déposé sans être des
absolument,
plaignantes.
Absolument, des témoins.
Alors, par ailleurs, le journal Libération, si vous voulez, quand même, une pleine page comme ça, en ce moment, il se passe quand même des choses importantes dans le monde sur des personnes qui ont déjà été entendu. Il n'y a rien de nouveau dans le journal Libération.
Leur visage.
Rien.
Leur visage.
Rien.
Parce que vous connaissiez le dossier. Mais
elles choisissent de témoigner. Elles ont témoigné dans un cadre judiciaire.
Oui, mais elles témoignent publiquement, maître.
Leurs témoignages sont connus.
Bon, puisque
très bien. Alors ça donne 8 pages. Très bien.
Ils leur avaient reproché de ne pas avoir le courage de dire face à face.
Alors écoutez, peut-être que Patrick Poivre d'Arvor a dit cela à un moment donné de sa vie qui était un petit peu compliqué. Alors évidemment, on s'est accroché à cette petite parole. Aujourd'hui, on
une
a
parole qui a pu heurter.
Qui a pu heurter. Mais moi, j'entends ça, vous avez raison de le rappeler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 8 pleines pages dans un journal comme Libération, hein, dont la marque, comme tous les journaux du monde, ou en tout cas de France, en tout cas, doit être d'abord celui de l'impartialité, hein, celui du respect du contradictoire. Je veux vous dire une chose, pardon, mais ça, je tiens à le dire. C'est que j'ai envoyé un mot qui devait faire 10 lignes au directeur de la publication et de la rédaction de Libération.
Ils font 8 pages. Ils enquêtent depuis des semaines et des semaines. Ils n'ont pas publié ce livre. Ils n'ont pas publié. Vous trouvez que c'est faire leur travail que de ne pas respecter
le contradictoire ? De publier des témoignages et de choisir de consacrer une à ce qu'ils considèrent comme une masse de témoignages assez conséquente, c'est un choix qu'il faut respecter et mettre plafond.
Ils ont, alors moi, ce que je ne respecte pas, c'est qu'une enquête dure des semaines, voire des mois. Je trouve que Libération ne s'honore pas parce que je trouve qu'il est un peu un instrument d'une orchestration d'une campagne médiatique et je trouve absolument anormal et je dis publiquement au directeur de la publication qui a écrit une tribune qui se termine de façon absolument sidérante que la petite réponse que j'ai apportée de 10 lignes par rapport à 8 pages n'ait pas été publiée.
Maître, si vous attaquez la déontologie de Libération, c'est peut-être parce qu'il vous est impossible de dire que ces femmes mentent.
Alors écoutez, moi j'estime qu'il est Il appartient à la justice de dire cela. D'accord ? Moi, je ne suis pas là pour dire que des femmes mentent. Je suis là pour jouer mon rôle d'avocat. Je l'ai joué. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu une réponse judiciaire. Qu'est-ce qu'on attend dans un pays de droit ? Si ce n'est une réponse judiciaire.
C'est une très bonne question parce qu'il y a, il y a une vingtaine d'accusations.
Cela,
même,
on contourne
et aujourd'hui,
cela.
C'est pas qu'on contourne, c'est qu'on est dans un monde où effectivement il y a prescription pour beaucoup de faits et qu'on est dans des dossiers où c'est très souvent du parole contre parole. La question, qu'est-ce qu'une preuve peut se poser ? Mais 4 ans après MeToo, ça veut dire que la parole des femmes en groupe comme ça, elle ne vaut rien.
Moi, je n'ai jamais dit que la parole des femmes ne valait rien et vous n'allez jamais m'entendre dire que la parole des femmes ne vaut rien. Je trouve que la parole des femmes est considérable et importante. Je dis simplement que l'on a joué le jeu de la justice, qu'on a apporté des preuves. Nous avons apporté des preuves dans un domaine où c'est extrêmement difficile. Nous avons démontré que certaines de ces femmes mentaient. Nous avons démontré des preuves matérielles contraires à leur témoignage. Nous avons une décision de justice qui ne peut pas être autre chose que celle qui a été rendue en l'état. Et aujourd'hui, parce que cette décision ne plaît pas, eh bien on la contourne et on essaie de porter le procès sur un terrain médiatique qui s'affranchit de toutes les règles, qui sont des règles fondamentales dans un état de droit, qui sont celles de la justice.
Parmi ces témoins, à côté de ces témoins, vous avez sans doute remarqué la parole de Nonce Paolini, l'ancien PDG de TF1. Il n'y a aucune raison de croire que ces femmes se sont liguées contre PPDA. Quel serait leur intérêt à faire cela ? C'est une affaire poisseuse, triste et révoltante.
Alors, je note que M. Nonce Paolini, à l'époque où il était en responsabilité, n'a manifestement pas eu à se plaindre de quoi que ce soit. Ou alors j'espère que M. Nonce Paolini n'aurait pas hésité, s'il avait été informé de faits de cette nature, dont on a l'air de dire qu'ils étaient connus de tout le monde, qu'il n'aurait pas manqué de les dénoncer. Donc aujourd'hui, la parole de M. Nonce Paolini ne vaut rien. Où il s'est passé des choses, il en a eu connaissance au moment où il était en responsabilité et il n'a rien fait, ce qui ne serait pas à son honneur, nous sommes tous d'accord avec cela. Ou alors il vient ici, aujourd'hui, hurler avec les loups un peu tardivement.
Merci Maître Jacqueline Lafont, conseil de Patrick Poivre-Davoir. Merci d'être venu ce soir sur le plateau, c'est à vous. Monsieur le ministre, Bruno Le Maire, on vous garde parce qu'on a encore des questions à vous poser. On va encore dire quelques mots sur cet éternel soleil qui paraît aujourd'hui chez Albin Michel. A tout de suite, Patrick Timsit et Julie Andrieux sont également nos invités. Puis il y aura le Vu, les actualités de Bertrand et la story média de Mohamed Bouabsi. A tout de suite.